Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de cette conversation hebdomadaire qui va tenter de répondre à une question à la fois simple et compliquée. Où allons-nous ? Où allons-nous après cette journée de jeudi qui a montré, me semble-t-il, une évolution dans la contestation, à la fois une relance de cette contestation, incontestablement, avec beaucoup plus de monde, et donc comme si c'était un nouveau départ, d'une certaine façon, et en même temps, cette fois, la violence, qui était absente des précédentes journées de mobilisation, la violence qui change évidemment la nature de ce conflit. Donc nous avons avec nous, pour essayer d'y voir un peu plus clair, et puis de savoir ce qu'en pensent nos compatriotes, nous avons Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP, qui est en charge des études d'opinion. Merci Frédéric et bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc peut-être on va commencer par ce changement de... C'est toujours difficile d'évaluer la nature du moment dans lequel nous sommes dans ce genre de crise, parce qu'il y a des moments où tout pouvoir est inaudible, parce que la contestation est encore incandescente, et puis il y a des moments où, au contraire, cette parole redevient audible, parce que le mouvement soit change de nature, soit s'effiloche, etc. Là, ce qui s'est passé d'original par rapport à des phases ou des contestations précédentes, c'est que, par exemple, la campagne de Nicolas Sarkozy de 2010, il y avait eu 15 ou 16 journées de mobilisation, les unes après les autres, mais une fois la loi votée, s'était installé sur une pente déclinante pour la mobilisation, et puis plus de mobilisation du tout. Les gens avaient considéré que la loi était là, donc il fallait qu'elle serait appliquée. Là, cette fois, il y a eu le vote de la loi, mais le 49-3 a en quelque sorte réallumé la mèche ou redonné un prétexte à ceux qui voulaient continuer de s'opposer pour relancer cette contestation. Puis il y a eu la parole présidentielle qui a été évidemment interprétée comme, entre guillemets, jetant de l'huile sur le feu. Donc comment appréciez-vous ce moment, justement, Frédéric Dabi, si tant est que cela soit possible, parce que c'est vraiment toujours une évaluation très compliquée à faire.
Oui, c'est compliqué parce que ce mouvement est par définition mouvant. Je partage votre analogie avec 2010. Il y a le mouvement social de 2010 contre les retraites, avec beaucoup de monde dans la rue, énormément, un front syndical uni, une réforme Woerth-Fillon analogue à la réforme actuelle, puisqu'on passait de 60 à 62 ans en 2010, 62-64 ans en 2023. Mais là, la comparaison s'arrête nette, puisque effectivement, en 2010, après le vote de la loi majoritaire par la majorité UMP de l'époque, le mouvement s'est éteint, même si la colère était là contre Nicolas Sarkozy. Il l'avait payé quelques mois après aux élections cantonales qui avaient été un cru catastrophique pour la droite. Mais il y a deux différences. La première, c'est que en 2010, l'opinion publique soutenait à une petite majorité où il y avait un gros bloc de Français qui soutenait une réforme raisonnable de passer de 60 à 62 ans pour sauver un système de retraite. Et puis, en 2010, le 49-3 n'avait pas été utilisé. Et là, on a un cocktail, si je puis dire, détonnant. 49-3, échec de peu de la motion de censure, intervention présidentielle qui, à tout le moins, n'a pas vraiment apaisé. Tout cela a redonné de la vigueur au mouvement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce moment d'entre-deux, peut-être même de point de bascule? C'est l'opinion publique que je scrute dans mes enquêtes, est sur deux logiques différentes, où il y a deux logiques d'opinion à l'œuvre. La première, une enquête IFOP pour la chaîne Paris Première, l'émission Ne nous fâchons pas, qui a été menée au soir du rejet de la motion de censure, on voit que 62% des Français, 72% des salariés, les personnes qui vont être concernées par la réforme des retraites, souhaitent voir le mouvement se durcir pour faire reculer Emmanuel Macron sur sa réforme. Dans le même temps, parce que cette question pour le JDD a été posée au même moment, dans le même terrain d'enquête, 79% des Français considèrent que Emmanuel Macron et son gouvernement n'abandonneront pas la réforme des retraites. Donc on a d'un côté un souhait, de l'autre un pronostic complètement contradictoire. En 95, il y avait un souhait très fort, un soutien très fort à l'égard du mouvement social, mais dans l'opinion, parce qu'il y avait le souvenir de 94 du CIP, il y avait d'autres mouvements sociaux qui avaient réussi, les Français étaient sûrs que ça ne tiendrait pas, qu'Alain Juppé reculerait, que Jacques Chirac, très en deçà, très en retrait par rapport au conflit social. Il n'y a pas cette personnalisation comme on le voit pour Emmanuel Macron. Là, en ce moment, ce mouvement de retraite, c'est lui contre nous, lui contre eux, etc. On pensait qu'en 95, le gouvernement reculerait. Là, il y a cette intériorisation qui fait que beaucoup de Français ne voient pas la sortie de crise. Et le fait qu'Emmanuel Macron ne bouge pas, alors qu'on veut que ça bouge, alors qu'on rejette massivement cette réforme, tout ça permet à certains de glisser vers une radicalisation, vers un pourrissement du conflit. Et donc, dans ce cadre-là, la sortie de crise, vous avez raison de le dire, on ne la voit pas. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire du Jacques Chirac 2006 une loi votée, promulguée, mais il annonce, bien sûr, 10 jours ou 15 jours après la décision du Conseil constitutionnel, ça nous ramènerait au mois d'avril, et les mots de Jacques Chirac étaient très très forts, le temps ne s'y prête pas, le dialogue n'est pas possible, la loi ne sera pas appliquée. On peine quand on entend en plus l'intervention présidentielle très en continuité avec ses vœux du 31 décembre, avec ses mots précédents, le chemin démocratique, la loi doit être votée. On peine à imaginer un scénario 2006. C'est cette tension à l'œuvre qui explique ce moment où les Français sont entre colère, fatigue et incertitude.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, je partage cette analyse, mais en même temps, je trouve que la situation politique est quand même assez différente par rapport aux périodes antérieures. D'abord, la contestation a pris, du côté des deux syndicats, un côté plus radical, c'est-à-dire que c'est présenté comme une épreuve de force. Alors, quand on dit qu'il y a une épreuve de force, ça veut dire qu'il y a une bataille, et s'il y a une bataille, il y a une victoire et une défaite. Et manifestement, la défaite n'est pas acceptée. Elle est patente, si vous voulez. La majorité du Parlement a accepté la loi. Donc la loi est passée. On peut discuter sur le 49-3. Brusquement, le mouvement syndical s'est transformé en professeur de droit constitutionnel et a expliqué que le 49-3, c'était pas bien. Mais quand même, le 49-3, au contraire, a une solennité. Ça consiste à dire la confiance de l'Assemblée va à un gouvernement qui propose cette loi. Donc, évidemment, si vous voulez, c'est une défaite. Alors, ça a été accentué par le discours de Macron, l'intervention de Macron, qui a une part de... qui n'est pas habile au sens profond du terme, parce qu'il y a une vieille formule de Pascal, c'est qu'on ne dit jamais aux gens « vous avez tort », on dit aux gens « vous avez en partie tort, mais... » Et on explique les raisons pour lesquelles l'opinion de l'adversaire n'est pas complète. Mais on ne... rhétoriquement, on n'annule pas l'adversaire. Donc ça, il y a une grande maladresse politique dans la réponse de Macron, qui va en même temps avec sa solidité, j'espère... pour lui, qu'il ne tannera pas le ridicule de Chirac, gaulliste, paraît-il. Si vous voulez, j'imagine le général de Gaulle promulguant une loi et l'annulant. Si vous voulez, il faut vraiment... Alors, la deuxième différence politique, c'est que Giscard disait, il faut, pour gouverner bien, il faut 2 Français sur 3. Macron gouverne avec 1 Français sur 3. Il gouverne avec 1 Français sur 3 et une extrême droite extrêmement puissante et un parti républicain qui ne s'est pas défini. C'est-à-dire qu'un parti républicain dont la moitié est au fond sur la même position que le Front National et l'autre moitié soutient en disant du mal. Et donc, il est, si j'ose dire, l'état d'hostilité de l'opinion française traduit en même temps la fragilité, la difficulté politique profonde de Macron à cause du résultat des législatives, mais même plus profondément. La position centrale triste, c'est-à-dire avoir des ennemis des deux côtés, est la position la plus difficile. Quand je faisais de l'infanterie dans l'armée, on m'avait expliqué que la seule position à ne pas prendre, c'est celle où on est soumis à 2 feux d'horizons différents, si vous voulez. Donc, on peut affronter, avoir un seul adversaire en face de soi, mais avoir des adversaires des deux côtés, faire la guerre des deux côtés, c'est extrêmement difficile, et ça, je crois que c'est l'originalité de la situation actuelle.
Frédéric Dabi.
Je partage complètement ce que Jean-Claude Casanova vient de dire. La différence fondamentale, c'est par rapport à 95, par rapport à 2010, qui avait été un conflit très fort. Il y avait énormément de monde dans la rue, il faut le dire, plus que maintenant, parce que beaucoup de journées d'action avaient lieu le samedi. Et il y avait beaucoup de salariés du secteur privé qui étaient dans la rue. La différence, c'est oui, cette fin de la bipolarisation depuis 2015, hein, même avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, quand on voit les scrutins intermédiaires de 2014 et 2015, il y avait déjà cette triple polarisation, ces oppositions éparpillées avec une logique de surenchère, et puis ce mouvement social, il faut le dire aussi, c'est un double reflet. Premièrement, le reflet de la composition de cette Assemblée nationale, de cette majorité relative, qui fait que l'usage du 49-3 est absolument indispensable. Et il faut bien se dire, j'entends ce que vous dites Jean-Claude, constitutionnellement, le 49-3, la belle affaire, ça fait partie de l'arsenal qu'a un président de la République. Mais pour les Français, le regard sur le 49-3 a considérablement changé. Aucun effet, aucun impact quand Michel Rocard l'utilise 28 fois. Avec une majorité relative.
La CSG est passée.
Exactement. Vous avez raison de le citer. C'est une réforme, c'est une loi qui nous concerne tous à la fin de chaque mois.
Chaque mois.
Ouais, à la fin de chaque mois. Pour sa retraite également. Et pas de problème. Il avait quitté, à en croire les indices IFOP-JDD, hein, plus ancien baromètre de la Ve République, Matignon avec une popularité étincelante. Là, le 49-3, il faut le dire, est vu comme un passage en force. Comme un coup de force et comme une atteinte à la démocratie. Moi, je suis frappé de voir dans notre baromètre de la semaine dernière avec Emmanuel Macron qui est soutenu par un peu moins d'un Français sur trois, même moins 28%. Quand on regarde le verbatim des propos des Français sur leur mécontentement, il y a l'idée d'une absence d'écoute du président. Il est sourd, il n'écoute pas la rue, les syndicats, les manifestants, les organisations syndicales, les Français, même les sondages sont parfois convoqués. Et tout ça a enraciné, ou plutôt a réactivé, des traits d'image négatifs présidentiels qui étaient présents dès 2017, qui avaient été fortement atténués, voire qui avaient disparu pendant la période Covid, Ukraine, campagne présidentielle. Un président silencieux, méprisant, déconnecté, qui ne connaît pas le réel. Il y a une critique qui était associée, vous citiez tout à l'heure Giscard d'Estaing, qui était fortement associée à Giscard d'Estaing. Et tout ça change considérablement la donne. Le deuxième élément, et je le ferai plus court, c'est comment arriver à, pour pouvoir gouverner, pour que la mandature soit utile, il eut fallu une alliance, un contrat de gouvernement plutôt qu'une lecture, plutôt que des soutiens texte par texte, et la force qui pouvait apporter cette alliance, ce sont les Républicains, et effectivement, ils sont fracturés. Républicains du Sénat, Républicains de l'Assemblée nationale, sympathisants républicains. Dans le sondage dont je vous ai parlé tout à l'heure, où 62% des Français souhaitent que le mouvement se durcisse, on a un sympathisant républicain sur deux qui dit oui, l'autre qui dit non. Donc, on a cette fracturation à droite qui fait que, quand Emmanuel Macron propose ou ordonne à Madame Borne d'élargir la majorité, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est mission impossible.
C'est mission impossible, d'autant que ça le ramène, Emmanuel Macron et le gouvernement, à ce que l'on appelait aussi le débauchage, c'est-à-dire que on cible des personnalités et on essaie de les ramener à soi, on les fait rentrer, mais ça n'apporte aucun profit, je veux dire, ça n'élargit absolument pas une majorité. Or, l'élargissement eût été en effet un contrat, et le contrat aujourd'hui est devenu totalement impossible. Donc c'est mission impossible pour Madame Borne. Donc probablement la donne là changera en fonction aussi peut-être de l'évolution du conflit.
Mais je dois dire, je ne l'ai pas mentionné, le problème de fond à l'arrière-plan, c'est qu'il y a une profonde incompréhension de l'opinion française, de la majorité de l'opinion française, à l'égard du problème des retraites. C'est-à-dire que la France est le pays d'Europe avec l'Italie dans lequel le poids public des retraites est le plus élevé, si vous voulez, et ne comprend pas une idée très simple, c'est que le pourcentage des actifs par rapport au nombre de retraités décroît inéluctablement. Et donc, il y a un profond attachement des Français à la retraite. Il y a eu un changement historique. C'est-à-dire que les Français regardent la retraite comme un acquis. C'est-à-dire comme si on enlevait des jours de congé, comme si on enlevait des vacances, comme elles voient dans toute augmentation de l'âge de sortie de la retraite, qui produit inévitablement une augmentation de la durée du travail pour une partie de la population française. Et ils voient dans cela un très profond recul. Mais ils ne voit pas, l'opinion française ne voit pas la nécessité du recul. En tout état de cause, le recul se produira parce que le nombre des actifs par rapport au nombre de retraités va baisser, baisse depuis 30 ans et continuera à baisser.
Et le nombre des retraités augmente de façon exponentielle.
Ou bien c'est les retraites qui baisseront, c'est-à-dire ou bien on augmentera les impôts pour financer les retraites. Mais si on ne veut pas toucher à la quantité de travail, la solution est donc il faut attendre, il faut espérer que la compréhension viendra. D'ailleurs, dans ce que citait notre ami tout à l'heure sur le fait que les Français acceptent, pensent que la réforme est inévitable, il y a sans doute un certain degré de perception de cette situation.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour essayer d'évaluer les conséquences du tournant qui s'est opéré dans la journée de jeudi sur le mouvement social, à la fois mobilisation plus grande et introduction de la violence. Par rapport à cette violence, précisément, Frédéric Dabi, comment réagit l'opinion ? Parce que En règle générale, c'est évidemment l'arme de tout pouvoir et du pouvoir exécutif. Ça a été vrai sous différents présidents. Quand la violence s'installe et dégénère, il y a un réflexe, au contraire, de rassemblement autour du pouvoir exécutif, autour du président, pour justement refuser cette dérive. Là, on a le sentiment que, pour le moment, cette violence est... D'ailleurs, la violence s'est installée dans le débat public. Ça, on l'a vu à l'Assemblée, on le voit dans la façon très véhémente et très virulente dont se passent les absences de débat, d'ailleurs, et qui inévitablement se transmettent à la société ou légitiment auprès de la société ce recours à la violence. On a le sentiment que, depuis d'ailleurs l'idée venu de la suite de la crise des Gilets jaunes, que c'est par la violence qu'on obtient des résultats. Comment les Français regardent-ils cette question ? Parce que c'est une des questions clés qui est posée désormais. Frédéric Dabi.
Vous avez raison de rappeler les exemples passés. On se souvient de ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, qui a été un moment très compliqué pour le président, mais aussi un moment qui lui a permis de reprendre pied dans les enquêtes de popularité, puisqu'après le saccage qui avait beaucoup marqué les Français de l'Arc de Triomphe, on a eu une sorte de parti de l'ordre, de majorité silencieuse, attachée à l'ordre et à la sécurité, refusant la chienlit, comme on dit, et on a vu petit à petit Emmanuel Macron, grâce à son idée de génie du grand débat, reprendre des points, une quinzaine de points entre janvier 2019 et les européennes du mois de mai, grâce à cette France plutôt rurale, personnes âgées, sympathisantes de droite et du centre. Là, cette logique d'opinion, pour l'instant, n'existe pas. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire que pour beaucoup de Français, pour reprendre une affiche célèbre, la chienlit, c'est lui. Ce n'est pas la violence. Ce qui me frappe aussi, et j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, c'est de voir à quel point une partie de la jeunesse accepte la violence, ou plutôt peut comprendre la violence comme unique moyen de se faire entendre. On a beaucoup de jeunes le soir dans les rues. Maintenant, on a une scène, un mouvement social qui se fait en deux actes ou deux scènes. La scène de jour où il y a encore des manifs ritualisées et calmes, même si hier ça a été un petit peu, enfin plutôt vendredi, jeudi, ça a été un petit peu démenti. Et des scènes de nuit où là, il y a eu le fait que la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux ait été brûlée, on a évité le pire, rue Saint-Marc à Paris, etc. Où il y a de la violence, mais je suis frappé de voir qu'une partie de la jeunesse, cette jeunesse qui s'est abstenue à presque 40% à l'élection présidentielle au premier tour, ça n'était jamais arrivé que des primo-votants, ou même d'habitude ils votent plus que l'ensemble des Français, refusent l'acte de vote, soit sur une logique de vanité du vote, voter c'est vain, voter ça ne change pas la vie. Donc la seule arme pour se faire entendre, une des armes, c'est sortir des moyens classiques pour accepter, soutenir et parfois, bien sûr ce sont des cas très limités, recourir à la violence. L'opinion publique regarde ça avec une certaine inquiétude, même si pour l'instant, elle, sur ce pourrissement éventuel du conflit et aujourd'hui cette incapacité à se projeter dans une après-crise, elle en tient pour responsable le président actuel.
Oui, d'autant qu'on ne voit pas quelle peut être d'ailleurs la sortie pour le moment, on en dira un mot tout à l'heure, mais auparavant je voulais vous interroger aussi sur une part du débat qui a lieu dans le pays. C'est la première fois qu'on entend avec insistance un certain nombre d'intellectuels, d'historiens, de professeurs, même reprendre un argument qui est l'argument au fond, de tous ceux qui ont des racines révolutionnaires dans leur tempérament et dans leur mouvement, et qui est une querelle de légitimité. Et comme on nous explique qu'en fait, en France, il y aurait deux légitimités, la légitimité des institutions, de la loi, du Parlement, d'une part, et d'autre part, la légitimité, entre guillemets, dite du peuple. C'est quoi la légitimité du peuple? C'est est-ce que par la violence, on est nécessairement légitime? Et je trouve ça extrêmement grave, d'ailleurs, parce que ça délégitime, pour le coup, les institutions classiques, les institutions de la démocratie dite représentative. Alors, est-ce que ce débat d'une double légitimité, est-ce qu'il existe dans ce que vous observez? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce que c'est quelque chose qui prend? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit laisser, j'allais dire, du côté de l'extrême gauche, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, avait le monopole de ce double discours?
Oui, à titre personnel, je suis extrêmement dubitatif, pour ne pas dire goguenard, face à cette querelle qui n'a bien sûr pas de sens. Mais qu'est-ce qui fait qu'on entend, au-delà de la gauche de LFI, hein, qui a une stratégie de chaos et de pouvoir toujours arrimer la NUPES sur la gauche de la gauche, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir ce débat? Je pense que la question, plus largement, c'est depuis des années qu'il y a dans le débat public une remise en cause de la légitimité des élus. Ça vient de loin. 2012, quelques semaines après l'élection de François Hollande, tout un imaginaire, en fait, il n'a pas vraiment gagné, il a manqué une semaine à Nicolas Sarkozy. 2017-2022, Emmanuel Macron a finalement gagné parce qu'on a empêché François Fillon de pouvoir être un candidat crédible. 2022, il n'a pas vraiment gagné. 5 millions de voix d'avance au second tour, ce n'est pourtant pas une paille, mais c'était tellement facile de battre Marine Le Pen quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'une chaise aurait pu battre Marine Le Pen. Tout cela participe de la délégitimation des élus nationaux, locaux. Il a été rapporté à beaucoup de maires élus en mars 2020 qui n'ont pas vraiment gagné parce que la campagne, le vote, dans un contexte de forte abstention Covid, avait entaché leur légitimité. Cette remise en cause de la légitimité des élus est dangereuse. Au-delà de ça, elle a un moteur, un carburant. C'est la crise du politique. C'est l'incapacité des élus nationaux et un peu moins des élus locaux à changer d'avis, à réussir, à transformer le quotidien des Françaises et des Français. Mais c'est ce contexte-là qui explique que maintenant, on oppose de manière, je trouve, très artificielle et qui n'a pas d'écho dans l'opinion publique, une légitimité de la rue, de la foule, du peuple. Et pour cela, on convoque, peut-être à juste titre, des grands épisodes de l'histoire de notre pays, 1830, 1848, 1936, etc. Mais c'est un signe, je trouve, supplémentaire de la crise démocratique que l'on vit.
Jean-Claude Casanova.
Non, je suis d'accord. Il y a la tradition historique française plus forte qu'ailleurs. Si on compare la France et l'Angleterre, la souveraineté du Parlement en Angleterre au XIXe siècle a été manifestée par la force. Il y a eu une répression des manifestations. Et ce qui a fait la gloire de Madame Thatcher, c'est la victoire à l'égard des syndicats, des trade unions. L'idée en Angleterre que la légitimité est hors du Parlement est inconcevable d'une certaine façon. Et en France, en revanche, il y a une tradition historique auquel vous venez de faire allusion, qui est accentuée aujourd'hui par le fait, si on cherche qui est révolutionnaire dans la France actuelle, moi je m'amuse toujours à dire, la classe révolutionnaire, la catégorie révolutionnaire, ce sont les intermittents du spectacle et des sciences sociales. C'est-à-dire, d'une certaine façon, des lettrés. Et des gens qui mettent l'absolu dans leurs convictions politiques, qui sont des minorités qui veulent s'imposer à des majorités et qui trouvent un discours justificatif de leur volonté, si vous voulez. Je lisais l'article d'un sociologue dans Le Monde qui expliquait que il y a une légitimité de la rue, il y a une souveraineté de la rue, dit-il. Il ne se demande pas comment s'exprime la souveraineté de la rue. La souveraineté de la rue, c'est nécessairement la souveraineté d'une minorité. Si ce qui légitime intellectuellement ou philosophiquement le système représentatif, c'est que le système représentatif
fait apparaître une majorité. Et elle le fait apparaître une majorité par l'intermédiaire des élections. Quand on dit qu'il y a une légitimité de la rue en comptant le nombre des manifestations, d'ailleurs en acceptant une... Il y a des uns disent 3 millions et les autres disent 1 million.
Le chiffre politique, comme on dit.
Oui, mais quand même, c'est l'accept... Comme les deux vérités ne sont pas possibles ensemble, ça veut dire une acceptation du mensonge. C'est quand même grave moralement, si vous voulez, que quand j'entends quelqu'un à la radio qui dit il y avait 3 millions, parce que la CGT l'a dit, c'est quand même surprenant, si vous voulez, c'est une acceptation délibérée du mensonge. Cette tension, si vous voulez, elle existe toujours dans les démocraties, bien sûr, elle est dans la nature des choses, mais elle prend en France un caractère aigu d'ailleurs. Regardez les réactions étrangères, j'aimerais que les radios fassent la revue de presse de la presse étrangère à l'égard de la France. Regardez la façon dont les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Allemands nous considèrent.
Ben, ils considèrent que, de toute façon, c'est un signe d'affaiblissement du pays vis-à-vis du reste du monde. Ça, c'est évidemment très clair. Mais dans ce contexte, précisément, Frédéric Dabi, comment sortir? Comment en sortir? Qu'est-ce qui peut être... Alors, évidemment, l'hypothèse dont rêvent les syndicats, c'est évidemment le retrait pur et simple de la loi. Il y a aussi, qui complique les choses, j'allais dire une affaire dans l'affaire ou un combat dans le combat. C'est le combat, le duel qui oppose le président de la République au patron de la CFDT, Laurent Berger, qui est d'ailleurs, me semble-t-il, celui qui a les clés d'une sortie de crise. Parce que si la CFDT, tout d'un coup, se mettait à dire ben, les violences sont inacceptables et donc nous ne pouvons plus participer à ce genre de... Je veux dire, les choses changent. On a toujours une CFDT, un secrétaire général de la CFDT qui est vent debout contre le président de la République et qui, au fond, est à l'unisson de ce qui cimente un petit peu tous les manifestants, c'est-à-dire l'anti-macronisme, Frédéric Dabi.
Oui, c'est ce qu'on disait au début de notre échange, Jean-Marie, c'est la personnalisation de ce conflit. En 95, c'était un peu un conflit contre Juppé, mais Chirac était relativement épargné. En 2010, c'était le binôme Fillon-Woerth. Nicolas Sarkozy était bien sûr brocardé, mais là, ça prend une personnalisation très forte, comme au moment des Gilets jaunes. C'est vrai que Laurent Berger, qui est quand même reste dans un discours modéré, il n'a pas refusé de rencontrer bientôt M. Dussopt pour parler des conditions de travail, mais il a parlé d'un délai de décence. La CGT, qui ouvre son congrès lundi, avec la succession de Philippe Martinez, n'est pas sur cette logique-là. Il y a aussi un calendrier syndical qui change la donne. Maintenant, la sortie de crise est pour finir. Elle est très difficile à imaginer. Et il n'y a pas la soupape que pouvait constituer des élections intermédiaires sanctionnant le gouvernement. Nous sommes dans un désert électoral, il ne faut pas oublier. Pas d'élection en 2023, les sénatoriales ne concernent pas grand monde. 2024, une élection européenne qui a peu d'impact sur le cycle électoral français. 2025, pas d'élection. La projection d'un vote sanction, c'est 2026. Donc tout ça, je dirais, je rajoute une brique à cette incertitude et à cette difficulté d'imaginer une sortie de crise. La sortie de crise peut-être la plus évidente serait... une dissolution, le président l'a écartée.
Voilà, ben nous allons clore sur ce chapitre en attendant le prochain épisode, les prochains épisodes, donc prochain rendez-vous de mobilisation mardi, et puis nous verrons comment les choses évoluent d'ici là. Merci en tout cas Frédéric Dabi de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.